vais vous dire un peu ce que j'enregistre, comme d'autres choses, mais j'enregistre pour pouvoir le mettre en ligne. Il y a bientôt un site de la paroisse qui va être mis en ligne, j'espère, pour la fête de Dieu, là, pour la fin de l'année, pour la fin de l'année pastorale. Et on mettra les homélies déjà, et puis des enseignements, un certain nombre d'enseignements que l'on fait dans la paroisse, de façon à ne pas avoir à se répéter, puis que chacun puisse réécouter s'il le souhaite tel ou tel enseignement. Donc, ce que je souhaitais vous dire, je vais vous parler donc de l'adoration et de l'oraison. L'adoration eucharistique. Je vous rappelle très brièvement ce que c'est, des points importants. L'adoration eucharistique est à vivre dans la continuité de notre vie liturgique et en particulier de la messe. Ce n'est pas quelque chose à séparer comme un temps de prière privé. C'est un acte public. C'est la continuité. L'adoration eucharistique, c'est la continuité de la messe. Et ça nous prépare à vivre la messe. À vivre la messe comme un acte d'adoration. Et cet acte d'adoration, si on le vit bien, on est dans une attitude de réception pour que Dieu transforme nos cœurs, change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et donc, ensuite, pour que, une fois quand on vit bien la messe, et donc l'adoration, et parce qu'on vit bien l'adoration, eh bien, ensuite, notre vie se transforme. Il y a un détournement de soi pour être tourné vers les autres, il y a un désir d'annoncer Jésus-Christ, il y a un désir de vivre en fidélité à ce que Jésus attend de nous. Ce qui fait que nos priorités changent, nos désirs changent. Il faut le souhaiter, car c'est pour notre plus grand bien, et c'est pour le bien du monde, et c'est pour le bien de ceux qui sont autour de nous. Donc c'est à vivre dans la continuité de l'Eucharistie et du sacrifice eucharistique. Dans l'adoration, Dieu se donne. Pour ça qu'on prend du temps auprès de lui, ça vous a été rappelé au début, c'est dans l'expérience de Gethsémani que l'on vit l'adoration. Vous n'avez pas été une heure à prier avec moi, à veiller avec moi. On prend une heure d'adoration parce que, comme à Gethsémani, on veut accompagner Jésus dans l'offrande de sa vie et, bien évidemment, dans sa résurrection. C'est pour ça que la fresque qui est derrière représente un Jésus transfiguré, mais aussi un Jésus ressuscité, pour nous rappeler que l'Eucharistie, c'est le mystère du sacrifice du Christ. C'est vraiment Dieu se donne à chaque Eucharistie, Dieu se donne à nous comme il y a 2000 ans, de la même manière, avec la même intensité, avec la même réalité, avec la même temporalité. Nous sommes présents à Jésus qui se donne, à Dieu qui s'offre pour nous. Et nous sommes aussi présents à sa résurrection, pour en vivre dans notre vie. Et pour que cela transforme notre vie, c'est-à-dire que pour que nous soyons capables, comme Jésus, à donner notre vie à Dieu, à offrir notre vie, à se déposséder de nous-mêmes. Ce qui me marque dans ma propre vie, c'est que mon premier réflexe, c'est de penser à ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. Toujours à me dire, il manque ceci, il manque cela. Or, la solution et la vie des saints, et la solution de notre vie, c'est d'être dans le don de soi, à Dieu et aux autres. Et quand on s'oublie, eh bien, on obtient tout. On obtient tout, y compris ce qu'on cherche. On obtient au-delà de ce que on peut chercher naturellement. L'intérêt de la présence réelle, d'adorer le Seigneur, présent dans l'Eucharistie, c'est qu'on prend, on a la grâce de faire cette expérience d'une proximité unique avec Dieu. Proximité très particulière. Ceci, c'est un but très particulier. Saint Augustin dit que l'Eucharistie a pour but de construire l'Église. L'Eucharistie n'a pas pour but de produire, entre guillemets, la présence eucharistique, mais la présence eucharistique est un moyen pour construire l'Église. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de négliger la présence eucharistique. Au contraire, plus on sera conscient de cet amour, de cette folie amoureuse de Dieu présent dans l'Eucharistie, plus on sera bouleversé, et plus ensuite on pourra convertir nos propres vies. Mais cette présence eucharistique est là pour nous rappeler cette proximité unique de Dieu et pour en vivre tous les jours de notre vie. La petite Thérèse disait qu'elle ne passe pas 3 minutes sans penser à Dieu. Ben, il ne s'agit pas de faire un effort de machin en faisant sonner son téléphone toutes les 2 minutes pour y penser. Ça doit venir comme un fruit du Saint-Esprit en nous, vivre avec, en présence. Et ça, là encore, ça oriente notre comportement et notre vie, et d'un seul coup, Dieu peut parler dans notre vie. Je vous lis un extrait de l'encyclique du pape Jean-Paul II sur l'Eucharistie. Il est bon de s'entretenir avec lui, avec le Christ, et penché sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Si, à notre époque, le christianisme doit se distinguer par l'art de la prière, comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement. C'est un point que j'ai abordé quand on a lancé l'adoration, c'est le fait que le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, a annoncé que le troisième millénaire, ou tout au moins le début, le christianisme se caractériserait par l'art de la prière. Assez étonnant, parce que comme spontanément, on ne penserait peut-être pas à ça. Et l'adoration est un lieu privilégié pour entrer dans cette connaissance surnaturelle de la prière, dans cette relation à Dieu. Voilà. L'adoration eucharistique permet de puiser dans le trésor inestimable de l'Église, à la source même de la grâce, hein, c'est l'Eucharistie, mais l'Eucharistie nous renvoie au mystère pascal, à la mort et à la résurrection de Jésus. Ici se prolongent et se multiplient les fruits de la communion au corps et au sang du Christ. Ça, c'était le premier point, rappeler très brièvement quelques éléments de l'adoration. L'adoration, c'est le premier acte du croyant. Le croyant adore Dieu. Il n'adore pas le chocolat. Quelquefois, on dit qu'on adore le chocolat. Mais non, on n'adore que Dieu. Et c'est très important. Dans l'Ancien Testament, la grande lutte du peuple juif, où Dieu envoie ses prophètes, c'est pour leur dire « Arrêtez vos idolâtries !» d'adorer autre chose que Dieu. Et nous faisons l'adoration parce que nous voulons n'adorer que Dieu et rien d'autre. Et c'est un acte fondamental. Voilà, je termine là-dessus. Le deuxième aspect, c'est un point un peu particulier, mais je souhaitais vous le partager. C'est la réparation. La réparation. Alors, je vais vous lire un texte un peu lentement, de Benoît XVI, qui explique « Il y a dans l'adoration un acte de réparation. » Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, c'est issu d'une interview de Benoît XVI. « Il me semble que nous devons aller... » Si jamais vous ne comprenez pas, vous me ferez signe, parce qu'il faut... « Il me semble que nous devons aller au fond des choses. » Parvenir au Seigneur lui-même qui a offert la réparation pour le péché du monde. Hein, le Christ qui a offert la réparation pour le péché du monde. Et nous efforcer de réparer. Disons qu'il faut équilibrer le surplus du mal de notre monde par un surplus de bien. Ainsi, dans la balance du monde, nous ne devons pas laisser ce grand surplus au négatif, mais accorder un poids au moins équivalent au bien. Tel est le point important. Dieu est toujours le bien absolu. mais ce bien absolu entre précisément dans le jeu de l'histoire. Le Christ devient ici présent, il souffre, et subit jusqu'au bout la souffrance du mal, créant ainsi un contrepoids d'une valeur absolue. Le surplus de mal qui existe toujours, si nous ne considérons de façon empirique que les proportions, est dépassé par le surplus immense de bien, la souffrance du Fils de Dieu. Donc le Christ équilibre le surplus de mal du monde. On est bien d'accord. C'est lui le sauveur. Nous, on n'est pas des sauveurs. Saint Grégoire de Nalianz, qui à un certain moment parle de cet effet et se demande à qui, pour qui le Seigneur a offert son sang, dit « Le Père ne voulait pas le sang du Fils. Le Père n'est pas cruel. Il n'est pas nécessaire d'attribuer cela à la volonté du Père. Mais c'est l'histoire qui le voulait. Ce sont les nécessités et les déséquilibres de l'histoire qui le voulaient. L'on devrait entrer dans ces déséquilibres et là, on devait entrer dans ces déséquilibres et là, recréer le véritable équilibre. Cela est véritablement éclairant. Mais il me semble que nous ne disposons pas du langage nécessaire pour comprendre ce fait et le faire également comprendre aux autres. Il ne faut pas offrir à Dieu, cruel, le sang de Dieu. On n'offre pas le sang de Jésus-Christ à Dieu parce qu'il est cruel et qu'il voudrait, il exigerait ce sang. Mais l'histoire le demande. Le mal de l'histoire demandait qu'il y ait un surplus de bien pour équilibrer. Mais Dieu lui-même, par son amour, doit entrer dans les souffrances de l'histoire, dans le mal de l'histoire, pour créer, non pas un équilibre, mais un surplus d'amour. Ça, c'est un point important. Non pas un équilibre, c'est pas la balance qui retrouve l'équilibre, mais un surpoids d'amour, que l'amour domine le mal, soit plus lourd que le mal. C'est plutôt comme ça qu'il faut que je fasse. Un surplus d'amour qui est plus fort que l'abondance de mal qui existe. C'est ce que le Seigneur nous invite. Dans ce sens, la réparation est nécessaire. Ce surplus du Seigneur est pour nous un appel à nous ranger de son côté. C'est-à-dire que Jésus sauve l'humanité. L'équilibre se fait. Et se fait même vraiment en faveur du bien. Mais il faut encore augmenter ce surplus de bien. Il faut augmenter ce surplus d'amour par notre union à lui, au Christ. Il nous invite à nous ranger du côté, il faut choisir notre côté, il nous invite à ranger de son côté, à entrer dans ce surplus d'amour et à le rendre présent, même avec nos faiblesses. Nous savons que pour nous aussi, ce surplus est nécessaire. Car dans notre vie aussi, il y a le mal. Nous vivons toujours grâce au surplus du Seigneur. Mais il nous fait ce don afin que, comme dit la lettre aux Colossiens, nous puissions nous associer à son abondance, l'abondance du Christ, nous puissions nous associer à l'abondance du Christ et, disons, faire grandir encore plus cette abondance de façon concrète à notre époque historique, au XXIe siècle. On a une mission pour ce temps. Cela me semble une réalité typiquement catholique. C'est toujours le pape Benoît XVI qui parle. Luther dit « Nous ne pouvons rien ajouter à Jésus, au salut de Jésus, à l'amour de Jésus qui se donne. » Et cela est vrai. Puis il dit « Donc, nos œuvres ne comptent pas. Les œuvres des hommes ne comptent pas. Mais cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Car la générosité du Seigneur se révèle précisément dans le fait qu'il nous invite à entrer et accorde une valeur au fait que nous soyons avec lui que nous nous mettions de son côté. Nous devons mieux apprendre tout cela et ressentir également la grandeur, la générosité du Seigneur et la grandeur de notre vocation. Le Seigneur veut nous associer à son grand surplus. Si nous commençons à le comprendre, nous serons heureux que le Seigneur nous invite à cela. Ce sera la grande joie d'être pris au sérieux par l'amour du Seigneur. Voilà. Donc Jésus sauve, il sauve l'humanité. Mais il nous invite à nous mettre de son côté et à augmenter encore ce surplus d'amour et à compenser le mal dans notre période historique d'aujourd'hui. Il attend cela des baptisés. Il attend cela de nous. Et donc, dans ce sens, je voulais simplement vous... Dans ce sens, il y a une notion de réparation dans l'acte d'adoration. On adore Dieu, on prend du temps, on donne du temps pour donner notre amour à Dieu, pour compenser, si on peut parler comme ça, hein, de façon un petit peu mathématique, pour compenser l'oubli de Dieu. Et les blasphèmes aussi, quelquefois volontaires. Sainte Marguerite Marie à la Coque, hein, dans la fête du Sacré-Cœur, qui a donné la fête du Sacré-Cœur, Jésus lui dira, hein, voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui a reçu en échange qu'ingratitude. Et donc, nous sommes invités à répondre, il ne s'agit pas pour nous de regarder ce que font les autres, ce n'est pas notre affaire. Nous répondons à notre vocation de baptiser. Répondons à notre appel à aimer Dieu, à aimer nos frères. Et donc, offrons-nous et sachons que nous contribuons, Jésus veut nous associer à la réparation du monde, veut nous associer à compenser le mal par le bien, mais par un surplus de bien. Et vous savez, les miracles s'obtiennent dans ce surplus de bien. Il peut y avoir des grands miracles qui se obtenu parce que justement il y a une telle abondance de biens offerts par les chrétiens et souvent dans les lieux de martyrs, hein, parce que ça, c'est l'offrande suprême, hein. Mais voilà, mais nous on n'en est pas là, donc pour l'instant on va vivre cela à notre niveau, dans l'adoration, dans notre vie quotidienne. Eh bien, quand il y a une abondance de dons de soi, de dons gratuits, de dons pour mettre vraiment du bien, compenser le mal par le bien, eh bien, quand il y a un vrai surplus, un surplus très abondant, eh bien, là, il se passe des choses extraordinaires. Bon, voilà, ça va ? L'adoration, la réparation. C'est pas un truc très facile à développer, mais le pape Benoît XVI le fait avec beaucoup de clarté. Maintenant, je voudrais... Je crois que j'ai combien, donc j'ai 20 minutes. Maintenant, je voudrais... Il est solide, heureusement. Enfin, j'espère. Donc, je voudrais parler maintenant de l'oraison. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'ai pris simplement quelques points. Là, maintenant, ça fait depuis janvier, donc ça va faire presque 6 mois que l'adoration est lancée. Donc là, on a passé déjà des étapes. Vous avez sans doute expérimenté, ceux qui ont commencé à prier 1 heure, parce qu'une heure c'est pas rien quand même, 1 heure une fois par semaine, eh bien au début, enfin la majorité je pense, a fait une expérience forte de la présence de Dieu, hein, quelque chose d'agréable à vivre en fait, parce que Dieu au début nous fait comprendre qu'il est content que nous soyons là, hein, Dieu parle. Il nous fait comprendre qu'il est content. Il nous fait comprendre aussi que nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour... Nous sommes faits pour prendre du temps avec Dieu. À pas passer tout notre temps, sauf vocation exceptionnelle, mais à prendre du temps. Et puis, il veut nous encourager. Après, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont vécu déjà des phases plus laborieuses, plus difficiles. Et peut-être même certains sont dans des périodes qu'on qualifie en spiritualité de sécheresse, d'aridité, où là, comme un jardin tout sec, tout semble enfin, c'est laborieux. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Parce que le Seigneur donne sa grâce, mais après, sa grâce est toujours là, mais il travaille à sa manière. C'est lui le jardinier, hein, donc il faut le laisser faire. C'est lui le maître du soleil, maître de la pluie, donc il va arroser quand il faut, et va. Mais souvent, le jardin a besoin d'être un peu nettoyé, un peu purifié. Moi, j'ai fait des études en horticulture avant de rentrer au séminaire, et pour tuer les petites graines, les mauvaises herbes, on faisait passer de la vapeur dans les terreaux. Et on chauffait le terreau, en fait. Donc on le chauffait, et puis ça tuait les graines. Et le Seigneur, il fait un peu ça. Alors là, c'est un peu différent, c'est en laissant dans l'aridité, dans sans eau, voilà. On tue les mauvaises herbes, on tue un certain nombre de mauvaises herbes. Les racines amères, qui pourraient prendre dessus. Donc voilà, tout ça c'est normal. Il y a une multiplicité des codes de prière. Moi je voulais vous parler de l'oraison parce qu'il me semble que quand on prend un an, une heure par semaine de prière, c'est important de rentrer dans l'oraison et pas de se contenter, même si c'est pas mal, hein, pas se contenter par exemple de lire des livres ou de dire des prières. Je dis vraiment, c'est pas mal de lire des prières. C'est pas, il y a des grands saints, hein. il y a des gens qui ont récité le chapelet en permanence qui ont vécu des communions avec Dieu étonnantes. Hein. Donc, faut pas s'inquiéter, faut pas non plus. Mais je pense que ça peut être bien de se dire qu'il faut rentrer dans une vie d'oraison. Bon, dans la vie d'oraison, il y a un principe, c'est la régularité. Donc, la base, c'est une fois par semaine. En fait, ce qui serait bien, ça serait que ce soit un peu plus. Ça ne peut pas être une heure par jour, probablement, bien que ce ne soit pas interdit, et même conseillé. Mais voilà, chacun en fonction de son état de vie, de sa vie concrète, eh bien, on adapte la durée. Il y a une heure semaine qui est l'engagement de base. Puis ensuite, on peut prendre, même chez soi, 10 minutes, un quart d'heure d'oraison. Hein, ça, c'est fortement conseiller. Et même si vous n'avez pas le temps de dire toutes vos prières, c'est pas grave, prenez le temps d'oraison. Voilà. Alors, donc c'est la fidélité. Ça c'est le point premier. Quoi qu'on vive, ne jamais capituler. Quoi qu'on vive dans l'oraison. Même si c'est les combats les plus horribles, même si on n'a qu'une envie, c'est de courir, de sortir en courant. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Dans des personnes qui vivent dans des périodes particulièrement de purification intérieure, ils vivent ces sentiments-là. Même si c'est même des blasphèmes parfois, hein. Ça peut arriver. Ça nous appartient pas. C'est bien quand même s'il y a des blasphèmes, c'est bien d'en parler à un prêtre ou à un accompagnateur spirituel parce que ça peut être signe d'autre chose aussi. En tout cas, on s'attache au pied du Saint-Sacrement et on ne part pas. On ne part pas avant la fin et selon Saint Ignace de Loyola, il ne faut pas rester après. On fait une heure, alors bon, bien sûr, vous, c'est un enchaînement, donc il faut attendre le prochain. Donc on fait une heure, ou un peu plus, ou un peu moins. Enfin, en tout cas, une heure. C'est bien de faire une heure. Et puis, après, voilà. Si c'est rien passé pendant l'oraison, il ne faut pas partir en se disant, parce que souvent, c'est les 5 dernières minutes, il y a l'enjeu. Donc il ne faut pas partir avant les 5 dernières minutes. C'est souvent comme ça que le Seigneur agit. C'est à la fin qu'il nous permet de... Mais parfois, il ne se passe rien à la fin. Il faut rester quand même jusqu'à la fin. Il ne faut pas traîner pour autant en attendant... l'encouragement de Dieu. Voilà. Bon. Alors, je reprends mon propos. Donc, dans l'oraison, il y a des étapes. Dans l'adoration aussi, il y a des étapes. Il y a des évolutions. Et il y a une évolution fondamentale, c'est que on est invité de passer d'une oraison active, où on travaille, On doit travailler, souvent après les premiers temps là, où le Seigneur nous encourage, dit qu'il est content, tout ça, après, on cale un peu, plus difficile, machin. Ça dépend, hein, ça dépend des gens, hein, parce que chacun est unique. Mais globalement, c'est un peu ça. Et donc, il faut travailler. Il faut passer de cette oraison active à l'oraison passive, où là, c'est Dieu qui prend la main. Mais ça se commande pas. C'est pas parce qu'on se dit, on peut pas se dire dans 3 jours c'est bon, moi je suis dans l'oraison passive. Non, c'est Dieu qui décide. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de nous, ça dépend de notre fidélité, ça dépend aussi du chemin que le Seigneur veut nous faire parcourir. Mais en tout cas, il y a ce passage à vivre. Il y a des évolutions dans l'oraison et pour passer d'une oraison active à une oraison passive, ou pour passer, quand on parle à partir de la parole de Dieu, quand on fait l'oraison à partir de la parole de Dieu, passer de la méditation à la contemplation. Je vous conseille un livre, alors je prends une autre spiritualité, c'est la spiritualité orientale de nos frères d'Orient, un livre, Le récit d'un pèlerin russe. Bon, c'est un livre très très connu, qui a eu un très gros succès. Donc c'est un pèlerin qui cherche à découvrir la prière. Et donc il apprend une formule, ce qu'on appelle la prière de Jésus ou la prière du cœur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, aie pitié de moi pécheur. Il va la répéter continuellement. Les Russes, ils ont des chapelets de sang perles. Et puis ils disent comme ça, hein. Ils disent Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, aie pitié de moi pécheur. Voilà. Bon, on n'a pas le temps de développer, peut-être on le fera une autre fois, mais de développer cette structure, cette prière, parce qu'elle est très très équilibrée. Il y a tout dedans. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, aie pitié de moi pécheur. Voilà. Et donc, dans le récit de pèlerin russe, il découvre comment Dieu va faire basculer sa prière. Il y a un basculement de notre prière qui va se passer. Et donc, on dit justement dans cette spiritualité orientale, chrétienne, hein, catholique et orthodoxe, hein, orientale, on dit qu'il faut passer de la tête au cœur. C'est-à-dire qu'au début, on marmonne, on pense à ce qu'on dit, hein, on peut faire avec la Bible aussi, en lisant la parole de Dieu, pour rentrer là. Puis à un moment, quand Dieu veut, mais ça suppose notre disponibilité, eh bien, il nous fait basculer dans une prière du cœur. Et les distractions, qui, je vous rassure, les distractions dans l'oraison, il y en a toujours, y compris pour les plus grands saints, y compris pour ceux qui sont dans ce qu'on appelle l'union transformante, c'est-à-dire le degré d'union à Dieu très très fort, eh bien, même ceux-là, ils ont des distractions. Mais seulement les distractions, ça peut nous rassurer, elles sont superficielles. Elles ne descendent pas dans le fond. C'est-à-dire qu'elles n'empêchent pas la prière. La prière reste dessous. Et peut-être on peut faire aussi cette expérience personnellement, parce que quelquefois le Seigneur peut nous donner ça. De s'apercevoir que voilà, on était parti ailleurs, mais en même temps, finalement, on est resté en prière, en fait. Donc, et c'est ce qui se passe aussi dans la prière incessante. Dans la vie en présence de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut faire nos activités quotidiennes, toutes nos activités, mais finalement, au fond du cœur, eh bien en fait, on était en prière. On était en présence de Dieu, on était en prière. Ça, c'est un don de Dieu. Hein, encore une fois, c'est un don de Dieu. Ça se reçoit. Pour cela, il faut persévérer dans la prière. Je le redis. On ne peut pas commander. Ça peut être donné rapidement ou lentement, de façon continue, ou par intermittence. C'est-à-dire parfois le Seigneur nous donne simplement des petits moments, tac. Il faut savoir les reconnaître pour remercier et pour être encouragé à continuer à cheminer. On peut aussi avoir dans notre oraison des moments où on a l'impression d'avancer, des moments où on a l'impression de reculer. L'important, c'est de ne pas rester statique. Parce que les sentiments que l'on a par rapport à ces questions-là sont complètement subjectifs. Souvent, Dieu travaille dans les moments où c'est le plus difficile. Travaille au plus profond. C'est peut-être parce qu'il travaille au plus profond que c'est plus difficile. Voilà. Parfois, l'âme a l'impression de régresser, de ne pas réussir à prier comme avant. La prière s'appauvrit. Et c'est justement bon signe. La prière s'appauvrit et c'est justement bon signe. La pauvreté est une richesse. On le sait, c'est l'évangile, mais il faut le réaliser, y compris dans la vie de prière. La pauvreté est une richesse. Tout ce que l'on comprend de Dieu n'est pas encore Dieu. Dieu est infiniment au-dessus de tout cela. Par contre, il se donne dans la foi et dans l'amour. La foi est le moyen de nous unir à Dieu, dit Jean de la Croix. C'est le seul acte qui nous permet d'adhérer à Dieu. Aussi, il faut vivre des moments d'appauvrissement de nos sentiments et même de notre compréhension des choses, d'appauvrissement, pour pouvoir vraiment saisir Dieu par la foi pure, comme diront les mystiques, la foi pure, ou par l'amour, la charité. Dieu parfois retire tout soutien matériel. Il retire tout soutien matériel, il retire tous ces trucs superficiels en fait qui nous ont encouragés, qui nous ont fait marcher, un peu comme l'âne qui avance parce qu'il y a la carotte devant lui. Il l'enlève un moment pour nous donner sa présence uniquement dans l'acte pur de la foi. C'est-à-dire, il n'y a rien. Je crois parce que je veux croire, dira la petite Thérèse de Lisieux, par l'acte d'amour pur aussi. Dieu se déverse dans l'âme et l'âme se déverse en Dieu dans un mouvement presque impossible qui est l'opération du Saint-Esprit. Donc ça se fait dans cette relation pauvre. Quel que soit le point de départ de notre vie d'oraison, c'est à cette étape que Dieu veut nous conduire. Un appauvrissement. Un appauvrissement pour se donner dans la foi pure. Voilà. Dieu souhaite aussi, dans l'oraison, blesser notre cœur. Alors ça, il souhaite blesser notre cœur parce qu'on croit l'aimer. Il ne faut pas dire ça, on l'aime déjà, mais pas suffisamment. Et donc il veut blesser notre cœur de son amour. Et ça passe par un chemin, ça me vient comme ça, un chemin de croix, y compris dans la prière, dans l'oraison. Un chemin où, je vous disais que c'était la continuité, l'adoration c'est la continuité de l'Eucharistie. Je pense que c'est assez beau de se dire qu'on est unis à Jésus aussi dans sa passion, et qu'il faut accepter d'être, lui il le fait par amour pour nous, pour les hommes, puisque c'est pas Dieu, pas le Père qui le demandait, c'est l'histoire, comme je disais tout à l'heure, il nous fait passer un chemin de croix qui, toute proportion gardée, quand même beaucoup plus cool pour nous, mais il veut blesser notre cœur de son amour, blesser notre cœur par son amour. Et ensuite, dans l'oraison consiste à ouvrir encore davantage notre cœur, toujours plus, à l'amour de Dieu. Bon, je saute des passages parce que je veux. Ouais. Voilà, je voudrais parler de. J'espère vous avoir convaincu. Le gros truc, je résume. Le gros truc, c'est quoi qu'on vive. La persévérance est la clé. Et Dieu travaille. Et c'est normal qu'on ne vive pas toujours la même chose dans nos temps d'oraison. Et c'est normal qu'on puisse passer de très longues périodes d'aridité, d'appauvrissement, parce que ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin de foi et du chemin de prière. Et c'est comme ça que Dieu se communique vraiment à nous. En nous dépouillant de tout ce qui, finalement, au début, on le dit parfois pour la vocation, on rentre, par exemple, pour être prêtre, pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire pour plein de choses, il y a des trucs qui brillent, on dit on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, voilà, c'est pas ça. Mais on entre par ça, et Dieu nous purifie pour ensuite faire de nous, pour la vocation de prêtre par exemple, c'est pareil pour le mariage d'ailleurs, je dirais, hein. On se marie pour de mauvaises raisons, et finalement on reste ensemble pour des bonnes. Et on vit ensemble pour de bonnes raisons, parce que le Seigneur purifie les choses, quand on le vit chrétiennement en tout cas. Alors, les conditions matérielles pour la prière. Je vous ai dit qu'on enlevait le matériel, et puis là maintenant je vais vous donner des conditions matérielles. Non, je vais vous en donner une seulement, à propos de l'attitude corporelle. L'attitude à la prière, d'une façon générale, n'a pas d'importance parce que nous ne faisons pas du yoga. Donc, nous sommes... L'attitude, de façon générale, l'attitude de prière n'a pas d'importance. Chacun choisit la sienne. Ça dépend de chacun. De son état de santé, de sa fatigue, de ce qui nous convient personnellement. On peut être assis, à genoux, prosterné, voire même debout. Pourquoi pas ? Si ça permet d'empêcher de dormir pendant la nuit. Enfin, moi, j'ai connu, parce que c'était un gars, il était à genoux droit comme ça, mais c'était en pleine nuit, il était fatigué, le pauvre. Puis il bougeait comme ça. Et à un moment, il s'est rattrapé, il était jeune. Hein. Il s'est rattrapé au dernier moment avant de s'écraser au sol. Il était endormi. Donc il faut faire attention quand même. Si on est fatigué, dormir à l'adoration, quand c'est pas volontaire, c'est pas un péché. Non, mais c'est vrai que se dire bon, je vais compléter ma nuit à l'adoration, c'est un peu dommage. Mais sinon, quand c'est pas volontaire, c'est pas un péché. Je veux dire, voilà, c'est la faiblesse de notre humanité qui est là. Voilà, voilà. Donc, peu importe. Deux remarques cependant pour nous guider dans le choix de notre attitude à la prière. Il faut prendre, et en particulier quand on vit l'adoration, dans une attitude d'oraison, donc de se mettre en présence de Dieu, vivre en présence de Dieu. La première attitude, c'est qu'il faut prendre une position qui permette une stabilité, une immobilité. Il faut se mettre bien pour pouvoir durer. Donc il faut essayer de trouver l'attitude. Pour certains, ce n'est pas possible. Hein. Il y a certains qui ne peuvent pas rester très longtemps dans une attitude, c'est pas grave. Mais on essaie de trouver l'attitude qui nous convient le mieux pour pouvoir durer sans que notre corps nous gêne dans la prière. Voilà, pour qu'elle permette le recueillement, de respirer calmement, de nous mettre en présence de Dieu et ne pas être distrait par notre corps qui râle. À l'inverse, il ne faut pas non plus une attitude qui soit trop relâchée, une position trop relâchée, qui favoriserait le sommeil. Voilà, il faut une attitude qui nous garde dans une présence, voilà, qui nous laisse dans une présence. Donc voilà, qui pourrait favoriser le sommeil ou la paresse. Hein, mais il faut rester trouver une attitude qui convient pour rester dans l'attention à Dieu. Voilà, bon, ça c'était juste deux conseils. Voilà. Sinon, sur la méthode, alors là, j'ai pas combien de temps, plus beaucoup de temps. Bon, je vais vous dire très très vite, puis ça sera repris d'autres fois, mais bon, vous pouvez découvrir par vous-même, parce qu'il y a des bouquins. Donc voilà, il peut être utile de s'appuyer sur une méthode d'oraison. Hein. Il n'y a pas, j'ai pas eu le temps de le faire parce que ce serait trop long, il n'y a pas de méthode. Dieu peut vous mettre dans une vie de prière sans que vous ayez rien utilisé comme technique. C'est pas du yoga, c'est pas du je sais pas quoi, on cherche pas un truc. Donc voilà, Dieu est du moment si vous le laissez faire, voilà. Mais souvent on n'arrive pas à le laisser faire en fait. Et nous on est obligé de se discipliner un peu et d'utiliser quelques moyens que la tradition de l'Église nous fait découvrir. Voilà. On est très libre de prendre le moyen qui nous convient en fonction de notre sensibilité, de notre spiritualité. On a aussi, il y a des spiritualités différentes dans l'Église et chacun doit trouver la sienne. Voilà. Il faut faire attention à ne pas papillonner. Donc, à ne pas changer d'activité toutes les 5 minutes pendant l'adoration ou pendant l'oraison. Parce que ça ne nous aide pas à entrer en prière. Il faut tendre à une certaine immobilité, stabilité, pour avancer vers un échange d'amour en profondeur avec Dieu. Donc c'est parfois difficile, on a un peu de combat, on a envie de faire autre chose. Moi j'avoue que parfois, surtout qu'il y a des bouquins à l'adoration, parfois j'ai envie de prendre un bouquin pour lire deux, trois trucs, puis je me dis, ben non, si j'en ai besoin, il faut que je le fasse. Si vraiment je sens que ça va m'aider à rentrer en prière. Mais souvent c'est simplement un combat intérieur, voilà, parce que j'ai pas envie d'être en silence et voilà. Et je suis un peu il y a une certaine lassitude de la prière qui fait que voilà, je peux être tenté par ça. Il ne faut pas rentrer dedans. Donc je vais prendre trois techniques. La méditation. La méditation, depuis le XVIe siècle, c'est la base de la méthode d'oraison en Occident. Elle est basée sur une tradition très ancienne, c'est la Lectio Divina, qui elle remonte carrément au début de l'Église. La Lectio Divina, c'est la lecture amoureuse de la parole de Dieu. La méditation consiste justement à une méditation amoureuse de la parole de Dieu. Alors, il y a différentes étapes, souvent très très détaillées, en fonction des spiritualités. Donc là, je ne vais pas vous développer plus. Donc on prend la parole de Dieu, on la médite, on se l'imagine. Enfin, bon, Saint Ignace de Loyola, hein, c'est le maître, hein, par excellence. Donc il a un conseil, si ça vous intéresse et si ça vous attire, de partir avec lui. Voilà. Il invite à vivre des étapes dans la prière, pour rentrer dans la prière et apporter ensuite, débusquer, accueillir des fruits. On rumine cette parole de Dieu tant qu'on y trouve une certaine nourriture. On la transforme en prière. On avance ainsi point après point. Voilà. Et c'est souvent conseillé de terminer par une prière finale. Beaucoup de livres proposent des méthodes. Alors, la méditation. L'avantage, c'est de nous donner une méthode abordable pour commencer. Elle évite la paresse spirituelle. Parce que c'est un danger dans l'oraison. Si on ne prend pas de méthode, on peut rentrer dans une forme de paresse. En fait, on ne rentre pas dans la prière. On est simplement là, en train de dire pendant une heure, coucou. Voilà. Mais on n'entre pas vraiment dans la prière. Elle évite une paresse spirituelle en donnant un travail à notre réflexion. Mais elle présente un danger, une limite, on va dire. C'est d'être un exercice de l'intelligence et de ne jamais suffisamment descendre dans le cœur. De faire des considérations sur Dieu en oubliant Dieu, ou en oubliant de parler à Dieu. De s'attacher au travail de la méthode et en oubliant de lâcher suffisamment pour que Dieu prenne le relais et que l'on rentre dans une oraison passive, amoureuse. Voilà. Il faut savoir quitter la méditation pour rentrer dans l'oraison passive. Là, c'est le gros enseignement de Saint Jean de la Croix, donc un autre docteur de l'Église. Voilà. La méditation est bonne tant qu'elle nous permet de nous centrer sur Dieu. Voilà. Bon. Ça, c'était le premier. Le deuxième, j'en fais trois. Hein. Deuxième, la prière du cœur. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est prière orientale. Je ne vous cache pas que moi, c'est ma méthode, celle-ci. Donc, je suis plus à l'aise pour en parler. Bon, c'est la voie royale pour entrer dans l'oraison en Orient, dans l'Orient chrétien. C'est la répétition de cette prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, aie pitié de moi pécheur. La formule doit maintenir toujours le nom de Jésus au centre. Le nom humain du Verbe, de façon à être lié à la personne de Dieu par Jésus. Cette tradition date du IVe siècle. L'avantage, cette prière, elle est pauvre dès le départ. Elle est simple, basée sur une attitude d'humilité. Elle peut être utilisée n'importe où, y compris en dehors de temps d'adoration. On peut l'utiliser même dans la vie, en voiture, n'importe où, n'importe quand, même pendant d'autres occupations. Et elle peut conduire à la prière continuelle dans notre vie quotidienne. Elle permet de descendre de l'intelligence au cœur, parce qu'elle a peu de prise intellectuelle. mais elle n'est pas donnée à tous et elle peut être difficile pour certains, et parce qu'ils ne sont pas faits pour cette spiritualité-là. Il faut donc ne pas hésiter à prendre autre chose. Voilà. Le danger serait de forcer les choses, de pousser excessivement à une répétition lassante qui serait source d'une tension nerveuse. Il faut donc la pratiquer avec douceur, sans forcer, ne pas oublier que la prière n'est pas une technique, mais que la prière est une grâce. Donc voilà, il faut répéter cette prière, penser à ce qu'on dit. Hein, donc si cette prière vous intéresse, lisez le récit d'un pèlerin russe, des choses comme ça qui peuvent aider, et puis voilà. Troisième technique, c'est le chapelet. On ne le dit pas assez souvent, mais beaucoup de fidèles sont dans le passé, chez nous, en Occident, entrés en oraison grâce au chapelet. Énormément de gens. C'est une prière simple et pauvre, pour les pauvres. L'avantage, c'est qu'elle passe partout. Elle peut être communautaire, cette prière, familiale. C'est une prière du cœur, comme la prière de Jésus, comme la prière précédente. Mais avec cet avantage, c'est que l'on passe par Marie. C'est Marie qui nous fait entrer dans l'intimité de Dieu. Voilà, réciter lentement, avec recueillement, le chapelet, pour entrer dans la prière. Souvent, lorsqu'il est difficile de faire oraison, de se recueillir sur la présence de Dieu, le chapelet peut nous aider à retrouver la paix intérieure, la communion au Seigneur. Le chapelet n'est pas une ancienne dévotion, mais le signe de la présence maternelle, la présence maternelle de Marie dans son Église et dans nos vies, qui nous conduit à Jésus et à Dieu. Voilà. Donc là aussi, ça convient à certains. Certains sont à l'aise dans cette prière, d'autres non. Voilà. Il faut essayer. Voilà. Et puis, donc, pour terminer, je vous dis simplement. Ne pas avoir peur de la sécheresse, de la tentation, du dégoût dans l'oraison, du dégoût. Et ne pas avoir peur des distractions, c'est normal. Voilà. Et si nous ne sommes pas exaucés dans nos prières? Parce que ça, souvent, le moteur, on dit qu'on vient à la prière d'oraison pour de mauvaises raisons, souvent on vient avec nos intentions de prière, et je vous en ai donné tout à l'heure. Et si on n'est pas exaucé? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Tous les jours, depuis des mois, la petite Mathilde prie pour qu'il fasse beau le jour de son anniversaire. Ce qui fait bien rire sa gouvernante qui n'est pas croyante. Le jour venu, il pleut des cordes, toute la journée. La gouvernante, moqueuse, lui dit « Tu vois, Mathilde, ton Seigneur ne t'a pas entendu. » « Oh, si !» répond Mathilde, pleine d'aplomb. « Il m'a entendu. Simplement, je vois... » Il a dit non. Voilà, c'est ça la différence. Voilà, merci. Non, on va passer. Je vois que j'étais...